Bon, comme, vous savez, comme vous savez, l'Uchronie, c'est le temps autre. Donc, nous allons considérer que nous sommes dans un univers uchronique, qu'il est 15h, et non pas 15h08, et que donc nous commençons à l'heure. Ceci est une uchronie. Alors, les temps parallèles, quand l'uchronie permet de mieux comprendre l'histoire. Avant de définir très rapidement ce qu'est l'uchronie, je vais vous présenter nos divers invités. Alors, Jean-Pierre Pecaud, qui a fait des études d'histoire, personne n'est parfait, s'est vite retrouvé d'abord dans le milieu du jeu de rôle, notamment dans une revue que je lisais moi-même adolescent, Casus Belli. Non. Et il est scénariste de bande dessinée. Il a notamment donné l'histoire secrète et avec Fred Blanchard et Fred Duval, qui sont aussi sur le festival, notamment la série uchronique Jour J. Il vient de lancer deux nouvelles séries, Les 30 deniers et Lignes de front. Au bout là-bas, Vincent Bontemps est auteur d'un ouvrage sur Bachelard. Il est chercheur en philosophie au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA. Hein ? Il travaille sur l'épistémologie de la physique, la philosophie des techniques et la sociologie des sciences. On le croise aussi à l'INS, à l'École des sciences et à la Société française de physique. Mais ses articles abordent les relations entre science, art et fiction, dont l'uchronie et les mondes parallèles. Jean-Jacques Régnier, à côté de lui, est nouvelliste et essayiste. Il a collaboré à peu près à toutes les revues du genre, Fiction, Galaxy, Yellow Submarine, notamment le numéro sur l'Uchronie, si je me souviens bien, de ce côté-ci de l'Atlantique. Il a aussi été publié pas mal au Canada, au Québec, chez Imagine et Solaris. Il a abordé l'Uchronie à plusieurs reprises, comme essayiste, mais aussi comme nouvelliste, si je me trompe pas. Enfin, à côté de moi, c'est Robert Silverberg. Je vais vous présenter Robert Silverberg. C'est un de ses recueils de nouvelles s'appelle « Mon nom est Titan ». Ça suffit à le définir. C'est un des grands maîtres de la science-fiction. Il a écrit des dizaines de romans, plusieurs chefs-d'œuvre, des centaines de nouvelles, des dizaines de chefs-d'œuvre. Personnellement, c'est un de mes auteurs préférés. J'attends mon chèque. Et donc... Il est évidemment un des spécialistes du domaine. Il a notamment écrit La Porte des Mondes, qui est une très jolie uchronie qui vient de ressortir dans une édition complétée aux éditions Mnemos le mois dernier. Et il sera en quelque sorte notre référent, notre grand sage, notre grand ancien. Et nous le remercions de participer à cette table ronde. Alors, l'uchronie, c'est un mot qui a été forgé... D'ailleurs, non, je vais demander à Vincent... De nous expliquer d'où vient le mot uchronie exactement, puisque justement, il a écrit là-dessus.
Merci.
Et ça me fait moins de travail.
Alors, le mot uchronie est dû à Charles Renouvier, qui est un philosophe français du 19e siècle, qui a commencé à écrire un livre sous ce titre dans les années 1850 et qu'il a finalement publié intégralement en 1876. Alors, il définit l'uchronie comme étant l'utopie dans l'histoire. Et alors, non seulement il définit le mot, mais il crée quasiment le genre. En réalité, il y a quelques œuvres antérieures, notamment celle de Geoffroy, qui était une œuvre d'un ancien des guerres napoléoniennes qui imaginait que Napoléon avait pu gagner la campagne de Russie et conquérir l'ensemble du monde. Et le choix de Renouvier est assez différent. Et d'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec l'un des plus beaux romans de Robert Silverberg, avec Roma Aeterna. C'est que Renouvier imagine... que l'Empire romain ne va pas s'effondrer. La bifurcation intervient à l'époque de Marc Aurèle. Pour ceux qui ont vu le film Gladiateur, Marc Aurèle, c'est le bon empereur au début. Et puis ensuite, il y a le mauvais empereur qui est Commode, qui détraque tout. Bon, et ben dans l'Uchronie de Renouvier, Marc Aurèle écarte Commode du trône, et puis il prend une autre grande décision, et là aussi, enfin, c'est pour ça que ça a un rapport avec le roman Roma Aeterna, la grande décision que prend Marc Aurèle, c'est d'empêcher le développement des religions monothéistes en Occident. Et donc la religion civile des Romains, des Latins, continue, et donc il n'y a pas, selon l'hypothèse de Renouvier, il n'y a pas de déclin de l'Empire romain, et la Renaissance peut commencer dès le 8e siècle avec un personnage qui est l'équivalent de Charlemagne et qui lance la Renaissance, et donc on s'épargne entre guillemets le Moyen-Âge. Et alors, je dis juste encore un mot, parce que c'est encore un parallèle peut-être avec Roma Aeterna, il commence son livre en présentant ce livre comme s'il n'était que l'éditeur, pas comme s'il était l'auteur, comme s'il avait réellement trouvé un manuscrit d'un moine hérétique du XIe siècle qui aurait écrit cette histoire du monde alternatif et puis qui ensuite aurait été récupéré et transféré par des voies un peu occultes jusqu'à lui tomber entre les mains. Or, le livre de Romain Eterna commence avec l'évocation de deux historiens qui discutent et l'un qui se dit que se serait-il passé si les juifs n'avaient pas été chassés de l'Empire romain, si une nouvelle religion inspirée du monothéisme était apparue. Et donc, il y a ces deux choses qui font résonance. Alors, il faut dire aussi une dernière chose, c'est lisez Romain Eterna, c'est un roman splendide. Ne lisez pas l'Uchronie, c'est totalement illisible, c'est insupportable. En revanche, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure si vous me rendez la parole. La postface est absolument géniale pour comprendre à quoi ça peut servir pour réfléchir sur l'histoire. Merci.
Merci beaucoup, merci à toi. Alors, nous allons évidemment commencer par évoquer un petit peu, une fois qu'on a dit ça et qu'on a défini qu'est-ce que c'était l'Uchronie, il y a évidemment des exemples très simples. Une des Uchronies les plus passe-partout, les deux Uchronies les plus passe-partout qu'on puisse imaginer sont des résultats différents à des conflits. C'est par exemple, est-ce qu'effectivement, si Napoléon l'avait emporté à Waterloo ou pendant la campagne de Russie était resté au pouvoir, et si les nazis avaient gagné la guerre, ce qui a inspiré notamment un des chefs-d'œuvre de Philippe Kadic, Le Maître du Haut-Château.
Et la guerre de sécession aussi.
Et la guerre de sécession avec Autant on emporte le temps. Ce sont comme ça. Des points de l'histoire définis sur lesquels on inverse le résultat de manière à obtenir une histoire différente, une histoire parallèle. Un des maîtres de l'exercice, c'est effectivement Robert Silverberg, qui l'a pratiqué à plusieurs reprises, au point que le regretté Jacques Chambon avait pu composer un recueil d'Uchronie de Robert Silverberg auquel il avait donné le titre facétieux de « Le nez de Cléopâtre », sachant que « Le nez de Cléopâtre », c'est un peu une des premières Uchronies imaginées. C'est juste une phrase de Pascal qui disait « Si le nez de Cléopâtre avait été différent, peut-être la face du monde en eût-elle été changée ». Donc il n'avait pas du tout développé, mais c'est la première fois en quelque sorte que, en tout cas dans une œuvre entre guillemets littéraire, les pensées de Pascal, ce processus de pensée apparaissait. Donc, outre de nombreuses nouvelles, Bob a écrit deux romans uchroniques, La Porte des Mondes, qui imagine un monde où la peste noire a tellement dévasté l'Europe que c'est l'Empire ottoman qui a pris le pouvoir et qui donc est devenu la grande puissance mondiale, au point de dominer la Terre. Et par ailleurs, il a écrit beaucoup plus récemment, dans les années 2000, Roma Eterna, dont Vincent a dit tout le mal qu'il pensait, qui est en fait une série de nouvelles où on examine comme ça sur plusieurs siècles le destin d'un empire romain qui n'a pas pris fin et qui se perpétue jusqu'à l'époque moderne parce que justement les religions monothéistes ne sont jamais apparues. Donc j'aimerais demander à Monsieur Silverberg pourquoi il trouve aussi fascinant ce jeu de pensée, ce jeu littéraire qu'est l'Uchronie.
Well, isn't it fascinating to play a literary game? It's one of the best games we have in science fiction, because all science fiction is based on what if, but this is the most literal what if. In the case of Roma Eterna, I may have been too subtle in planting my what if because you went right around it. The splitting point, that's the important thing in any uchronic novel. And incidentally, in the States, we don't know the word uchronia. We call it alternative history. Or because we don't speak our own language very well, we call it alternate history, but that's incorrect English. The splitting point is what's significant. And in Roma Eterna, I hide the splitting point in the final story, which takes place in essentially the year 2000. The Exodus, the biblical Exodus, never happens. The Jews remain in Egypt. They do not go on into Palestine. They're is no Jesus. There are no Jews in Palestine. The Christian religion does not develop, and the Romans do not adopt it because it isn't there. as we do know, the Romans under Constantine in the 4th century made Christianity the official religion, setting in motion what the historian Edward Gibbon believes is the destruction of the empire, and I think so too, but I'm not a Christian, had that imaginary event not happened, we would have had our present history. But in my Uchronic Rome, I make the point not only of a diversion of the timeline, but my belief that ultimately there'll be a conversion also. There's a French Revolution in Roma Eterna. There's a Napoleon in Roma Eterna. The first consul, as they revive the old Roman consulate, as Napoleon briefly did before he had the better idea of reviving the emperorship. There's a Renaissance in... So I do believe in what they call in mathematics the conversion to the mean. Time will heal itself in a certain sense, and history will work its way back to its course, although we still have Rome. It's now, toward the end of my book, a republic that has gone very far away from its original traditions. In my Gate of Worlds, which I see has just been reissued in a very handsome book, publisher I don't know anything about, Nemos. The Gate of Worlds, where the Ottoman Empire does conquer Europe, Shakespeare exists. He writes in Turkish. I suppose there is a Turkish translation of Shakespeare that I could have sought out for my research and quoted from, but I didn't think of that then, and it's now 50 years too late. Returning to the notion of convergence to the mean, there's an anti-Uchronic story by Alfred Bester, and I almost hesitate to mention the name of it in the country of Charlie Hebdo, but it's The Men Who Murdered Muhammad. And in that story, there are repeated attempts to change history, to dispose of Muhammad, and they don't work. Everything keeps coming back to the way it was, it is. Did you notice that I murdered Muhammad? In, the most interesting Uchronic experience I've ever had was when I was in Japan about 10 years ago at the science fiction convention, and there was a discussion of Philip K. Dick's The Man in the High Castle, which is, I think, one of the best of the... suppose the Axis had won World War II. And in The Man in the High Castle, it takes place in the California that I don't live in, which is run by the Japanese as a province of the Nipponese Empire. The Japanese science fiction people were deeply disturbed by this book. They said to us, it's a very cruel fantasy because we lost that war. And it hurts to read this fantasy of what might have been. It put things into a very deep perspective for me.
Un des grands spécialistes de la Robert Silverberg définissait l'Uchronie comme un jeu de l'esprit. Il dit que c'est un des meilleurs moyens, l'un des meilleurs outils que donne la science-fiction. Et Jean-Pierre Pecaud a vraiment le caractère malicieux d'utiliser à plaisir cet outil dans une longue série uchronique qui s'appelle Long Jour J, et que j'aimerais que tu nous présentes un peu. Et que tu nous dis surtout qu'est-ce qui t'a fasciné toi, qu'est-ce qui t'a intéressé et qu'est-ce que t'apporte cet outil. dans ton travail de créateur, de scénariste de bande dessinée, disons. Puisque tu ne fais pas que ça, tu fais des séries non uchroniques aussi.
Non, l'uchronie, c'est une partie des scénarios que j'écris jour J. C'est donc des scénarios uchroniques que je co-écris d'ailleurs avec Fred Duval. Hein. Moi, l'uchronie, je m'y intéresse depuis longtemps, et étant historien de formation, je dirais comme un géographe avait dit il y a quelques années dans un de ses bouquins, Yves Lacoste, que la géographie, ça servait à faire la guerre. Je dirais que l'uchronie, ça sert à faire de la politique. Et si on prend les premières uchronies, par exemple, celle que tu as citée sur Geoffroy, de la continuation d'un empire napoléonien et d'une non-défaite de Napoléon, c'est écrit juste après la défaite, et c'est bien évidemment les milieux pro-empereurs qui développent ce genre de choses. On peut faire la même analyse avec toutes les uchronies, celle de Kadic aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée de se dire, voilà, réfléchissons, jouons un peu au petit chimiste, on met sur une paillasse différents éléments de l'histoire, et puis on rajoute un peu de ceci, un peu de cela, voyons ce que ça fait. Et on arrive à d'autres développements, d'autres conséquences qui permettent effectivement d'expliquer une situation qui, pour les historiens, n'existe pas. Moi, je connais beaucoup de collègues historiens qui détestent l'uchronie, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Ce qui est arrivé, et ça devait arriver parce que c'est arrivé. Et donc ça n'a strictement aucun intérêt de faire de l'uchronie. Au contraire, moi, je pense que, justement, ça sert à expliquer des situations qui aurait pu se passer et qui aurait pu changer, et de montrer que rien n'est inaltérable. C'est-à-dire qu'on a grosso modo, en historiographie générale, on a deux grosses tendances, à gros bord, on va dire, pour pas rentrer dans les détails, mais on a l'histoire marxiste et néo-marxiste qui considère que c'est des situations, des superstructures économiques qui font l'histoire, et puis on a l'histoire plus classique qui a tendance à dire que c'est les grands hommes qui font l'histoire. Bon, c'est vraiment à gros bord, hein. Mais ça, dans ces deux situations-là, on n'a aucune place pour l'uchronie, effectivement, puisque, à partir du moment où on a un homme providentiel, les marxistes vous diront que c'est parce que la superstructure économique produit cet homme, point à la ligne. Or, on s'aperçoit que toute situation peut évoluer différemment à partir soit d'une situation économique qui va changer, soit d'un homme providentiel qui ne va pas être. L'exemple typique, c'est Churchill dans les années 40 qui meurt d'un infarctus en 39 ou peu importe. Que se passe-t-il ? Il y a de grandes chances effectivement pour que la Seconde Guerre mondiale, même si les conséquences à long terme de la Seconde Guerre mondiale seront identiques, puisque l'Allemagne nazie ne peut pas gagner, puisque ce type de régime contre le monde entier finira forcément par s'effondrer. Mais par contre, il y a de grandes chances pour que le cours de l'histoire ne se termine pas en 45. Donc on a, on a tout ce jeu. Alors, il y a effectivement le côté ludique et le côté jeu de l'esprit intéressant, mais il y a aussi un fond plus sérieux pour aider à réfléchir en fait sur des conséquences différentes à partir d'une position donnée.
Oui, alors c'est exactement ça qu'a Renouvier en tête quand il écrit son livre. Parce qu'il explique que dans un premier temps, ça pourrait faire figure d'histoire expérimentale. On choisit une chose, on modifie un facteur, on voit les conséquences. Et assez rapidement, il en arrive, il fait même des petits dessins avec des déviations, et il explique aux gens, mais voyez-vous, il y a un problème dans ce mode de raisonnement, qui est que, en fait, entre la pondération que vous faites sur l'événement que vous allez changer et les facteurs que vous pensez, il va y avoir une circularité. Donc, ou bien vous pensez que le cours de l'histoire, même s'il y a une déviation, va revenir dans son grand lit, ou bien vous pensez que ça va être parallèle, mais avec une déviation au départ, ou bien vous pensez que ça va bifurquer complètement. Donc, il dit, en fait, vous ne pouvez pas vraiment vous en servir comme une histoire expérimentale. Cela dit, ça conserve vraiment une grande utilité, c'est exactement celle dont tu as parlé. C'est-à-dire que si on est historien et qu'on présente les faits du passé qui ont eu lieu, qui sont donc certains comme ayant été nécessaires, on enferme les gens dans une vision du temps déterministe, pour utiliser le mot philosophique mégarique, c'est-à-dire on les enferme dans le fait que l'avenir aussi est écrit. Et donc Renouvier fait, dans un deuxième temps, après avoir critiqué lui-même son procédé, dit « ce que j'ai fait, ça vous rend la pensée que d'autres futurs étaient possibles dans le passé ». qui ne sont plus accessibles, mais que par conséquent, au présent, personne ne peut vous convaincre que l'ordre établi est toujours, sera toujours le même. Personne ne peut vous dire que l'avenir est déjà écrit. Vous êtes libre. Et donc, ça rend le sens de la liberté.
Et c'est pour ça que je dis que c'est fascinant.
Hein, voilà, le...
C'est en ça que ça sert à faire de la politique.
Voilà. Et il y a des gens, je ferai un bémol, c'est-à-dire que beaucoup d'uchronies sont des uchronies correctrices, comme tu le dis. C'est le cas chez Renouvier, c'est le cas chez Geoffroy dont on a parlé. Celle de Philippe Cadic est quand même nettement plus perverse, puisqu'il est dans le camp des vainqueurs, il imagine qu'un perdant. Donc, ça fait mal aux Japonais parce qu'eux le reçoivent à l'envers, d'autant plus qu'ils présentent l'occupation japonaise comme étant beaucoup plus humaine que l'occupation allemande. Et il présente aussi des choses qui sont fascinantes, comme l'effet de le complexe d'infériorité des Américains qui n'ont pas les yeux bridés et qui se sentent tout grands, tout pataux face aux Japonais qui sont petits, raffinés, qui ont un sens du design incarné. Enfin bon. Et donc il y a un jeu vraiment extraordinaire, plus pervers, plus subtil chez Philippe Cadic.
Alors, Jean-Jacques, juste, oui,
bah, j'allais dire un mot à ce sujet-là, simplement. Il y a aussi, en plus, dans Le Maître du Haut-Château, une caractéristique qu'on retrouve assez souvent dans les histoires utopiques, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'uchronique, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'uchronie une autre uchronie. C'est le cas du Maître du Haut-Château, mais bizarrement, j'ai constaté que c'était le cas assez souvent. Il y a une mise en abîme de l'uchronie dans ce monde nouveau, différent de celui dans lequel on vit.
C'est le cas,
il y a quelque part,
temps emporte le temps aussi.
Voilà. Oui, et aussi. Et il y a quelqu'un d'autre qui écrit une chronique qui est généralement l'inverse de celle dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, en fait, dans le bouquin de Dick, il y a quelqu'un qui a écrit un livre comme quoi c'est les États-Unis qui auraient gagné la guerre, finalement.
Oui, et même, c'est là que se glisse la perversité. On a l'impression qu'il décrit notre monde, le sien. Or, il y a quelques détails infimes qui font penser que c'est une uchronie à nouveau, justement, qui ressemble plus à la nôtre, mais qui est, enfin, à notre réalité, mais qui est effectivement encore à nouveau subtilement une uchronie. Alors, justement, toi qui as souvent réfléchi au problème, est-ce que tu pourrais présenter rapidement au public ici réuni ce qui te semble les uchronies, pas forcément les plus connues, mais les plus intéressantes, quitte à en faire découvrir quelques-unes. On a déjà parlé donc des deux livres de Robert Silverberg. On a très vaguement évoqué un livre où effectivement la guerre de sécession prend pendant un certain temps du livre une autre issue qui donc s'appelle. C'est merveilleusement traduit en français par un titre fabuleux qui s'appelle « Autant on emporte le temps », alors que le titre anglais est beaucoup plus passe-partout, disons, un livre de Ward Moore qui, je crois, est épuisé. Et on a parlé évidemment de la série Jour J, mais qu'est-ce que tu rajouterais, toi, et donc à Philippe Cadic, évidemment, qu'est-ce que tu rajouterais, toi, à cette moisson, disons ?
Pavane.
De Keith Roberts.
Pavane de Keith Roberts. Qui, en fait, part de l'hypothèse suivante, l'invincible Armada, qui est cette fois-ci vraiment invincible, conquiert l'Angleterre et abolit complètement la réforme religieuse
L'Église
anglicane n'existe pas. Et l'Angleterre reste catholique. Et restant catholique et sous domination espagnole, toute la révolution industrielle qui, dans notre propre histoire, se déroule en Angleterre et pour beaucoup est un pilote de la révolution industrielle européenne, n'a pas lieu. Et c'est un livre qui est composé d'un certain nombre de nouvelles où on voit des gens qui travaillent dans divers métiers. Alors il y en a un qui est je dirais qu'il est chauffeur routier, sauf que c'est pas un camion, c'est une espèce de locomotive sur route qui va transporter des marchandises à une vitesse absolument désespérément basse entre des villes anglaises. Il y a une autre nouvelle où on voit des télégraphistes, mais avec le télégraphe Chiap, donc qui, en manipulant des bras, font passer des messages généralement secrets et généralement du pouvoir en place, qui est l'Église. Et c'est vraiment superbement écrit. Et ça, le point de divergence, c'est effectivement le fait que l'invincible Armada gagne. Donc il y a un point de divergence tout à fait précis, ce qui n'est pas toujours le cas, j'y reviendrai peut-être. C'est vraiment un très 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 beau livre. Je crois que lui, par contre, n'est pas épuisé. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le, parce que c'est... Alors bizarrement aussi, très bizarrement, c'est vraiment une histoire d'un rationalisme total, sauf la dernière nouvelle où on voit bizarrement apparaître des faits. Alors, c'est un peu décroché de l'histoire uchronique. On fait un pas de côté, on dit, mais qu'est-ce que viennent faire ces faits dans cette histoire ? Et ce chapitre est tellement beau que finalement, ça passe très bien.
Oui, il faut dire que donc vous aurez compris que l'Uchronie est basée sur ce qu'on appelle un point de divergence historique, qui peut être très 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 variable. Il y a une série de Harry Harrison qui n'est pas traduite en français, où le point de divergence, c'est que les dinosaures n'ont jamais disparu. Donc le point de divergence se situe quand même à quelque chose comme 65 millions d'années dans notre passé.
C'est un des plus vieux du genre uchronique.
Voilà, tout à fait. Ce qui permet d'avoir ce qu'on voit dans toutes les très mauvaises séries Z cinématographiques des hommes préhistoriques affrontant des dinosaures. Harry Harrison, avec un sens du clin d'œil qui lui est très particulier, a réussi à provoquer cette rencontre avec une justification qui est, entre guillemets, scientifique, si on veut dire. Voilà. Pour revenir à Robert Silverberg, moi, ce que j'aimerais lui demander, c'est est-ce qu'il y a une outre le côté ludique de l'idée. Par exemple, pour La Porte des Mondes, vous avez souhaité, si j'ai bien compris, La Porte des Mondes au départ devait être une trilogie. Il devait y avoir plusieurs romans que vous n'avez pas finalement écrit, mais par contre, vous avez, si j'ai bien compris, réutilisé l'idée pour une novella qui s'appelle Lion Time in Timbuktu, Tombouctou à l'heure du lion, où vous avez prolongé en quelque sorte, non pas l'histoire, parce qu'on ne revoit pas les protagonistes du premier roman, mais vous avez prolongé cet univers en question. Alors j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a fait que finalement vous n'avez pas donné suite à l'époque à votre projet romanesque, et qu'est-ce qui vous a donné envie par la suite d'y revenir ?
Well, I were talking in Gate of Worlds about a book I wrote 50 years ago, yes. And why I didn't write the second and third volumes, I don't remember. And I don't remember what they were supposed to be about. Although part of the story involves the fact that there was no European conquest of the New World. The Turks came to the edge of the Atlantic and they stopped there. So the Aztec and Inca empires continued on into what we regard as our time. And I believe that one of the unwritten novels would have taken place in the New World, and probably the third one in Africa, which also remained unconquered, where the great African empires that we don't know very much about, except that their names have been revived, Mali and Ghana. These were the names of great medieval empires in Africa. They survived in my imaginary world. The novella that I wrote about 40 years after the original came about when I was looking at my book and remembered that I hadn't written the second and third novels. And I thought, well, why not return to this world? I've left all the material lying there for myself, and visit one of the African empires and have the greatly transformed Europeans of this Turkish-dominated world send ambassadors to the kingdom of I forget which it is now. And that's where Lion Time in Timbuktu came from. I asked two other writers, John Brunner and a woman, Chelsea Quinn Yarborough, yes, to write other stories set in this world, because that's what we were all doing then. We were writing stories set in other worlds, each other's worlds. And this very enterprising new publisher, Nemos, has put together, as has not been done in the States, the original Gate of Worlds novel and the three much later novellas, mine, Brunner's, Yarborough's. So we do get to explore various facets of the Uchronic world that I created. And that, I think, is the point of Uchronia, that we look at things from different perspectives. We develop a parallax effect by standing to one side and looking at our world in a distorted, transformed way, and say, what does that say about our world, what kind of Americas would have developed if we hadn't crushed the great American Indian empires that were there? What kind of Africa would we have? I think rather a better one than the one we have now. But we can imagine, we can draw imaginary worlds that give us at least a glimpse into these worlds that never were. One thing I was thinking of as we were discussing various great uchronic works, the negative side of this, the absence of uchronia in so much of science fiction, neither of the great founders, Jules Verne and H.G. Wells, wrote a uchronic novel, so far as I know, although the idea was lying around as early as the 19th century. I don't think Isaac Asimov, that master historian, ever wrote one. Heinlein, Clark. But a great many people outside of what we consider the world of science fiction wrote them. Jorge Luis Borges, The Garden of Forking Paths, it's called in English, is a short story that in about 12 pages demonstrates the entire concept of alternative history, of alternative reality, really. And Borges wrote others like that. There was an English journalist named J.S. Squire who assembled a book called If, or History Rewritten, in which there were a dozen essays, not by science fiction writers, of uchronic explorations, one of them by Sir Winston Churchill, who was not then Sir Winston Churchill. I wish I could remember anything anymore, but I'm in an alternative Silverberg that doesn't always remember. The only one I do remember of Squire's book that comes to mind now is a piece called If Grant Had Been Drinking at Appomattox. Our Civil War general, Grant, was drinking at Appomattox, and so it's a double-edged uchronia in which we see several sides of the same issue. I'm sure you all can contribute other outsider Ukrainians to my list, and I don't want to talk any longer than I have. As for your asking me to remember the two books I didn't write, you've just stepped into Ukrainia yourself.
J'ai une hypothèse, c'est que dans les auteurs de science-fiction, très souvent ils utilisent un procédé qui est proche de l'uchronie mais qui n'est pas le même, qui est l'anachronisme, c'est-à-dire qu'il y a un voyage dans le temps. La bifurcation intervient, mais parce que quelqu'un est parti du présent ou du futur et arrive dans le passé. C'est le cas, par exemple, de Lest Darkness Fall de Léon Sprague de Caen, où quelqu'un des années 30, un archéologue américain se retrouve, qui est dans l'Italie fasciste, se retrouve dans la Rome ancienne, et lui aussi, au moment de la décadence, en fait, permet à l'Empire romain de se régénérer, parce qu'il lui donne en fait tout le pragmatisme américain et tout plein d'inventions. La comptabilité, c'est assez amusant, la distillation, voilà. Et Mark Twain avait fait ça aussi avant, qui voilà. Je pense qu'il y a cet aspect qui est que comme ils travaillent déjà avec les voyages dans le temps, très souvent, ils font pas directement de l'uchronie, ils font de l'anachronisme avec une bifurcation, les auteurs de science-fiction.
Oui, on peut par exemple évoquer aussi Poul Anderson, qui avec La Patrouille du Temps, c'est justement une organisation
très conservatrice,
au sens premier du terme, c'est-à-dire qui est censée éradiquer les uchronies qui pourraient surgir de l'utilisation frauduleuse du voyage temporel. Donc ce qui fait que, et parfois, enfin le personnage principal à un moment efface une réalité à regret parce qu'il considère, et ça transparaît vraiment dans le texte, qu'elle est meilleure que ce par quoi il est forcé de la remplacer, c'est-à-dire la sienne, la nôtre entre guillemets, mais la sienne, quoi. Jean-Pierre, tu as fait preuve d'une grande créativité au niveau de la série Jour J, qui en présente un certain nombre, mais tu continues le jeu avec une série très différente qui imagine de façon, on va dire, à la fois patriotique mais surtout ludique ce qui aurait pu se passer si en 1940 la France avait poursuivi la guerre.
Oui, parce qu'en fait la série Jour J, comme le principe éditorial de la série Jour J, c'est de faire un album ou deux sur un point uchronique et de passer à autre chose après. Donc en fait on est limité dans les dans l'expression.
On a toute une palette d'uchronie.
On a toute une palette d'uchronie. Maintenant on est à plus de 25 volumes parus et effectivement chaque volume est sur une uchronie. 1940 c'est tout à fait autre chose. En fait c'est une série qui va vraisemblablement faire entre 4 ou 5 albums, qui prend pour base là un livre qui a été fait, qui a été publié par des historiens chez Talandier, Frank Stora, et qui part d'un point uchronique extrêmement précis. Donc le bouquin chez Calandier est extrêmement précis et absolument pas scénarisé, et part de la situation militaire en 1940 sur le front. D'un point uchronique, alors le point uchronique un peu spécifique qu'on va dire, c'est qu'en fait on ne donne pas les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Reynaud continue la guerre en Afrique du Nord en essayant de gagner le plus de temps possible, en demandant à l'armée française de gagner le plus de temps possible pour déménager usines, armements, etc. Tout ceci est extrêmement documenté dans le livre, je dirais à l'unité, au régiment près. Enfin, ils ont fait un boulot. Alors moi, dans la série, effectivement, j'essaie de dramatiser ça et de rendre ça scénaristiquement plus intéressant avec des héros, des choses comme ça. Puisque bien évidemment, il n'y a pas de personnage
Tu fais pas un documentaire.
Donc je fais pas un documentaire. Mais le fond, en fait, ce qui m'intéressait, c'est justement. Alors ça existe beaucoup aux États-Unis, ça commence à exister en France, mais c'est relativement récent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des historiens dits sérieux, des universitaires, qui ont fait des uchronies, qui ont écrit des uchronies, qui sont extrêmement documentées, extrêmement sérieuses, et qui ne sont pas du tout qui ne sont pas publiées par des éditeurs de science-fiction, et qui sont dans le domaine de la recherche historique, je dirais. Alors en France, ça commence. 1940, c'est une des premières approches de ça, où des historiens donc réputés sérieux avec tous les guillemets qui conviennent travaillent sur des hypothèses. Et donc effectivement, l'hypothèse nous dans notre roman national qui semble la plus adéquate, c'est effectivement 1940, que se serait-il passé si effectivement la France avait continué la guerre.
On voit donc se dessiner petit à petit, d'après les interventions de nos divers intervenants, que l'uchronie est effectivement une grille, enfin c'est une possibilité, c'est une grille de lecture, ça peut être une grille de lecture du monde ou des lunettes de soleil qui transforment la réalité d'une manière ou d'une autre. Et c'est effectivement ce qui fait que, dans certains cas même, il y a certains critiques considèrent que l'uchronie n'est pas de la science-fiction. C'est un point sur lequel je suis absolument pas d'accord, parce que pour moi, toute littérature imaginative déviant du réel n'est pas de la science-fiction, est de la science-fiction, mais je peux vaguement comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Donc je vais vous donner la parole aux deux spécialistes, là au bout, lequel des deux ?
Moi, ça sera bref, donc je commence, et je pense qu'effectivement, non seulement l'uchronie fait partie de la science-fiction, mais je crois que c'est la science-fiction qui fait partie de l'uchronie. La science-fiction, c'est l'uchronie du futur.
C'est assez joli. Moi, je dirais qu'il y a quand même une tension qui est entre les gens qui ont une culture où ils mettent l'accent sur les facteurs historiques, politiques, militaires, et les gens qui ont un imaginaire plus centré justement sur la science et la technologie. C'est pour ça que, par exemple, John Steinbeck a écrit « Le règne éphémère de Pépin IV ». Et c'est une très jolie uchronie sur le retour à la monarchie en France pendant une brève période, des choses comme ça. Et il n'est pas du tout effectivement dans la science-fiction comme Steinbeck, on est d'accord. Et il faut, dans les auteurs de science-fiction, trouver ceux qui excitent
quelque chose qui est une déviation, pas tellement en termes justement donc de technologie ou de science, mais qui est une déviation en termes de phénomènes sociaux, comportements, et dont très souvent on se retrouve dans des uchronies où vous avez remarqué que la technologie est un peu différente. C'est la politique qui a transformé la technologie, non pas la technologie qui a des conséquences sur la politique. Donc cette inversion-là, on ne la trouve pas dans la forme d'esprit de tous les auteurs de science-fiction. Donc il y a quand même cette tension-là. Je ne sais pas si...
Science fiction is an unfortunate term that we have been saddled with since Hugo Gernsback in the United States began to publish the first science fiction magazine and called it a magazine of scientific fiction. Scientific fiction, he called it, and eventually the term broke into the two words. There's not much science in most science fiction. And sometimes our great masters of science fiction could not really be thought of as science fiction writers. Ray Bradbury, whenever he ventured into science, usually got it wrong, which does not detract from the greatness of his literary achievement. Isaac Asimov's most famous work, the Foundation series, is built around a non-existent science of psychohistory, an imaginary science. Robert Heinlein, thinking of these things that I've just said, proposed to rename the field speculative fiction. And it never caught on. But if you call it speculative fiction, well, of course, Uchronia not only qualifies, but leads the army.
Et on pourrait rajouter le cas d'Ursula Le Guin, qui, sous couvert de science-fiction, a souvent livré des romans dont l'intérêt principal, le message, la profondeur, était tout à fait anthropologique, ethnographique ou politique, les dépossédés. Certes, c'est de la science-fiction, mais c'est surtout une réflexion magistrale sur ce que c'est que la politique, l'anarchisme, le socialisme, le capitalisme. On se coule dans des moules, dans des attentes des lecteurs, très certainement, quand on est écrivain, mais avec souvent un apport propre qui peut appartenir à une toute autre culture.
Puis il faut
celle qui est réduite à juste la science-fiction.
Il faut ajouter aussi, on en voit souvent les exemples utopiales, un des courants majeurs de la science-fiction actuelle, en tout cas en France, c'est ce qu'on appelle le steampunk. La définition la plus simple du steampunk, c'est un genre littéraire où le passé, l'avenir est arrivé plus tôt, et donc où effectivement on se retrouve avec une technologie très différente, et sans qu'il y ait véritablement de points de divergence spécifiques d'événements historiques qui auraient été altérés de manière à donner une issue différente, c'est là l'ensemble de la technologie qui est arrivée différemment. Et donc, ça permet de caricaturer l'Uchronie, pardon, décidément, de caricaturer l'Uchronie comme étant un genre littéraire qui est une expérience de pensée et qui, d'une certaine façon, semble exprimer un désir d'altérité. Parce que quand on écrit de la science-fiction pure, évidemment, quand on écrit dans le futur ou dans un espace lointain, on projette bien évidemment ses opinions, ses points de vue philosophiques, etc., en tout cas dans les œuvres les plus ambitieuses. Mais ce qui est intéressant avec l'Uchronie, c'est qu'on écrit souvent un autre présent. Et quand on écrit un autre présent, c'est souvent qu'on n'est pas forcément tout à fait satisfait du présent dans lequel on vit. Donc je voudrais demander à nos divers auteurs, et ce serait pour conclure en quelque sorte, s'il y a pour eux un attrait en quelque sorte émotif dans le fait d'écrire de l'Uchronie. Jean-Pierre ou Robert?
Well, it's irresistible. It's the great what if. Sometimes malicious. Imagine if there were dinosaurs still. This morning I went to the park where the colossal elephant walks around, and it gave me a good example of what it would be like to have dinosaurs in my neighborhood trampling on my garden, and we'd have to live very differently. Had France not surrendered in 1940, probably the Germans would have bombed Paris flat, and we'd be without Paris now, and how sad that would be. But these considerations are fantastic ones, speculative ones, and that's the joy of uchronic fiction, that we can let our minds enjoy free play. The free play of ideas is what our field is all about.
Oui, je sais pas, j'en ai écrit deux des uchronies, à mon souvenir d'ailleurs, parce que, et aucune des deux ne se réfère au présent. L'une imagine une autre vie pour Mozart, mais on ne sait pas quelles conséquences elle peut avoir aujourd'hui. Et une autre imagine que quand la France a gagné la guerre de 14, mais beaucoup plus vite que prévu, manque de bol, le dernier chapitre nous montre la ville de Lyon occupée par les Allemands quelques décennies plus tard. Mais là non plus, il n'y a aucune référence au présent. Simplement, il y en a une que je connais, que je n'ai pas du tout écrite, au contraire, et qui fait, elle, référence au présent, c'est Rêve de gloire de Roland Wagner.
Moi, je crois que l'Uchronie a vraiment part avec cette affectivité et avec une façon de porter un regard sur l'histoire où on admet que les choses auraient pu mieux se passer qu'elles se sont passées. Et par conséquent, il y a toujours une forme de travail de deuil dans un premier temps. Et on s'imagine que la colonisation de l'Amérique aurait pu se passer beaucoup mieux ou ne se serait pas passée. C'est un terme récurrent chez Silverberg. On s'imagine que Napoléon n'aurait pas pris le pouvoir et la France serait restée dans ses frontières, des choses comme ça.
Tu penses que l'Uchronie et l'Utopie sont beaucoup plus liées en quelque sorte qu'on
Je pense qu'il y a une double fonction. Il y a cette fonction un peu consolatrice, mais qui fait du mal, en réalité, parce qu'on voit à quel point. Et dans un deuxième temps, heureusement, ça rejaillit d'une façon libératoire, parce que ça montre que, voilà, comme disait Renouvier, ça montre que des bifurcations restent devant nous, que l'avenir n'est pas écrit, qu'on doit inventer les futurs, que l'on ne doit pas se céder au fatalisme. Et donc, je crois que c'est la fonction du chronique de donner ce parallaxe qui fait que ça fait sentir le caractère, finalement, biaisé, spécifique de notre propre situation, mais aussi ça nous en libère, du coup. Et ça nous permet d'envisager l'avenir avec plus de confiance, plus d'enthousiasme, plus d'inventivité.
Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, je pense qu'il y a deux fonctions. Si les romans et les bandes dessinées uchroniques en ce moment marchent aussi bien en France, je pense que c'est pas un hasard. C'est parce qu'on est dans un moment de doute sur notre nation, sur l'Europe, sur le système économique, etc., etc. Et je pense que ce type d'intérêt n'aurait pas pu naître dans les Trente Glorieuses, par exemple, où il y avait effectivement un phénomène qui est tout à fait différent. Mais il y a effectivement cette double fonction, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a cette fonction effectivement de deuil sur un futur qui aurait pu être plus intéressant, plus épanouissant, plus sympathique. Mais il y a aussi, et ça tu l'as très bien montré, aussi l'idée que voilà, l'histoire c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut ouvrir tout le temps sur d'autres possibilités, des possibilités qui sont tout aussi intéressantes, que rien n'est acquis jamais et donc que tout est possible un jour et que les choses peuvent changer. Et je pense que l'Uchronie, ça peut aussi servir à la fois à consoler et à la fois à aller plus loin sur d'autres possibilités.
Bien, nous sommes donc tous d'accord apparemment pour dire que l'Uchronie non seulement est un espace de créativité, mais que c'est même un espace de liberté. Nous allons conclure là-dessus. Il nous reste 4 minutes. Donc s'il y a parmi le public des questions...
Pierre-Paul, I want to say one thing. Is you said something terribly disturbing when you spoke of your 2 Uchronic novels, the one in which France won the First World War. My understanding is that France did win the First World War, and I wonder where I am.
Yeah. Yeah. Dans mon histoire, elle l'a gagné beaucoup plus vite, carrément entre 1916 et 1917, en l'espace d'un an. Et en fait, ça ne changeait pas grand-chose en définitive.
That saved millions of lives. I once wrote a uchronic story in which the protagonist, after traveling through a great many worlds, comes back to what seems to be this world, but a very close look at the text will show that what he comes back to is not this world. So when you talk about...
Donc, s'il y a des questions, sinon nous allons clore ce débat à l'heure pour une fois, mais je vous en prie. Dans ce cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi aux Utopiales. Et vous pouvez applaudir aux invités qui ont été brillants.